Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous et bienvenue pour Ici l'Europe, en cette semaine hautement diplomatique, puisque le président américain a choisi l'Europe comme première sortie de son pays. Nous recevons un ministre des Affaires étrangères, celui du Luxembourg, l'un des plus petits mais des plus riches États membres de l'Union européenne. Il s'agit de Jean Hasselborn, en liaison avec nous depuis la capitale du Grand-Duché. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, mesdames.
En tant que ministre des Affaires étrangères, vous êtes le doyen de l'Union européenne puisque vous êtes le ministre en poste depuis le plus longtemps, depuis 2004. Vous avez donc déjà eu affaire à 4 présidents américains et autant de vice-présidents, dont Joe Biden pendant le mandat de Barack Obama. Dans une vie antérieure, vous avez été ouvrier, syndicaliste, ce qui vous a sans doute donné une excellente formation pour négocier l'un des arts de la diplomatie. Vous avez entamé votre carrière politique au Parti socialiste ouvrier luxembourgeois et vous décrochez votre premier mandat en 1984. Vous appartenez toujours à cette famille tout en étant membre d'un gouvernement de coalition dirigé par un libéral, Xavier Bettel.
Alors avant d'ouvrir le chapitre de la relation transatlantique, une question d'actualité très très brûlante. Le président Emmanuel Macron a annoncé cette semaine la fin de l'opération Barkhane en Afrique de l'Ouest. Le soutien militaire et la lutte contre le terrorisme au Sahel va reposer sur les seules forces européennes et notamment sur la force Takuba. Est-ce que vous avez été informé de cela au préalable et vous pensez que cette décision est risquée ?
Moi, j'ai très bien en mémoire la décision du président François Hollande d'y aller en 2015, si mes souvenirs sont bons. C'était extrêmement important parce que le Mali était en train de tomber sous les mains des djihadistes avec toutes les répercussions pour l'Europe. Je comprends maintenant parfaitement aussi le président français. Ça devient très, très dangereux, très instable. C'est dommage pour le Mali, c'est dommage pour l'Afrique. Et j'espère que la CEDEAO aura, donc c'est l'organisation de ces pays de l'Ouest de l'Afrique, aura la capacité de stabiliser à nouveau la situation dans ce pays très important aussi pour nous et pour le Sahel.
Alors, l'Union européenne se targue d'avoir une politique en faveur de l'Afrique, de l'aider, notamment dans sa campagne de vaccination via COVAX. Mais dans le cadre du G7, on voit que c'est Joe Biden qui brille. Il a convaincu les 7 pays les plus riches de donner 1 milliard de vaccins aux pays pauvres. L'Europe apparaît à la traîne. Qu'en est-il exactement ?
C'est quand même une très bonne nouvelle. En ce qui concerne l'Europe, il ne faut pas oublier que sur les 600 millions de vaccins produits en Europe, 300 millions ont été exportés. Et donc, on peut être fier de cela, il faut faire plus encore, mais je pense que dans l'Union européenne, on a compris que pour sortir de ce trou du Covid, il ne faut pas seulement vacciner l'Union européenne, mais bien au-delà, surtout dans aider les pays les moins favorisés. Il faut que vraiment on aide tout le monde à avoir les vaccins à sa disposition. Je ne pense pas qu'avec la libéralisation des licences, et ça c'est une affaire de l'OMC, avec ce slogan-là, on puisse y arriver. Ce qu'il faut surtout, c'est aider les pays à ce que du vaccin soit produit dans les pays. Regardez la Bolivie, elle a un accord avec un producteur canadien, mais pour des raisons surtout administratives et d'autorisation, il n'arrive pas à démarrer. Donc pragmatiquement, il faut aider tous les pays qui n'ont pas la chance, comme nous en France ou au Luxembourg, d'avoir quand même fait des progrès énormes en ce qui concerne les gens vaccinés. Donc c'est une responsabilité de l'Europe, il faut regarder au-delà de nos frontières et tout faire pour que toute la planète puisse avoir la chance d'être vaccinée.
L'un des grands dossiers du G7, c'est la taxe mondiale sur les multinationales à 15%, un dossier porté historiquement par les Européens, qui est en passe d'aboutir grâce à l'engagement du président américain. Est-ce que c'est une avancée positive pour l'Europe en général et pour votre pays en particulier, le Luxembourg étant considéré souvent comme une boîte aux lettres permettant une forme d'évasion fiscale tout à fait légale pour les multinationales.
Oui, si on est en France, dans les médias, cette question, elle revient toujours. Je pense qu'il faut quand même un peu nuancer. D'abord, le principe. Je suis tout à fait d'accord, comme notre gouvernement, cette proposition de 15% de taxes à payer au minimum et aussi payer des taxes là où surtout les produits des GAFA sont vendus. Et puis aussi, le troisième élément, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire investir en conformité avec les accords de Paris. Pour moi, c'est une très bonne chose. Pour le Luxembourg, c'est une très bonne chose. Il faut évidemment maintenant cet accord qui est un accord politique. Il faut aller du G7 au G20 et puis du G20 revenir à Paris, à l'OECDE et puis transformer l'essai. Donc ça prendra un peu de temps, mais pour la planète, c'est une bonne décision si le G7 y arrive. Et pour le Luxembourg, ce n'est aucunement quelque chose de négatif. On a toujours demandé qu'au niveau de l'OCDE, on puisse trouver une solution commune à l'imposition, surtout des sociétés multinationales et surtout aussi des GAFA.
Alors, Joe Biden a démarré sa tournée européenne par une visite à Boris Johnson, le grand artisan du Brexit, qui d'ailleurs ne respecte pas vraiment le contrat de divorce. Il a, selon Bruxelles, violé le protocole nord-irlandais en repoussant les contrôles de marchandises en mer d'Irlande, et ce, unilatéralement. Comment l'amener à mieux respecter ses engagements dans le futur, monsieur le ministre ?
Oui, nous avons c'était pas facile, vous vous rappelez à Noël, cet accord de coopération. Le Parlement européen a voté le 21 mai, donc là c'est définitif. Mais nous avons, et vous l'avez dit, nous avons depuis le 1er janvier des problèmes avec les Britanniques parce qu'on avait donc mis à disposition des Britanniques des dérogations et à un certain moment, les Britanniques ont eux-mêmes par leur décision, donc prolonger ces dérogations, ce qui n'est pas conforme au paquet. Donc, ce qu'il y a politiquement à observer, c'est le Good Friday Agreement, l'accord du Vendredi Saint. L'Irlande ne peut pas être divisée par le Brexit avec une frontière physique. Ça, c'était un peu la quadrature du cercle à trouver une solution. On l'a trouvé. Il faut que les Britanniques respectent les accords. Si par le dialogue, on n'arrive pas, alors, il y a un système de règlement de différends et on peut aller même jusqu'à des formalités d'infraction envers les Anglais. Moi, je ne veux pas qu'on y arrive, mais il faut que les Britanniques respectent vraiment à la lettre ce qu'ils ont négocié avec nous.
C'est ce qu'a fait comprendre l'administration américaine à Boris Johnson. Vous vous réjouissez de cette attitude américaine ?
Oui, il y a un renversement de situation. Vous savez que Trump, il a encouragé Johnson, il a encouragé les Brexiteers. Pour Biden, c'est une grande faute, et c'est vrai, il a tout à fait raison. Et il veut, parce qu'il a, je crois que son arrière-arrière-grand-père est irlandais, il est très sensible à ce qu'en Irlande, le Good Friday Agreement reste en place et qu'on ne remette pas en cause la paix en Irlande.
Alors justement, Joe Biden, que vous connaissez bien, hein, c'est un homme d'État qui est féru de questions internationales. C'est assez inhabituel chez un président américain. Est-ce que vous l'avez déjà côtoyé ? Qu'est-ce que vous pensez de sa façon de faire de la diplomatie ?
Oui, écoutez, moi je ne le connais pas très bien. Je l'ai vu parfois quand il était à la conférence sur la sécurité à Munich. Je pense que vraiment, il était temps qu'on arrive à une autre carburation entre les États-Unis et l'Union européenne. Encore 4 ans de Trumpisme, je pense que cela aurait rendu le monde ingérable. Et c'est pour ça que c'est vraiment un bonheur. Il n'y a pas tellement de choses positives dans la vie actuellement des affaires étrangères. Mais là, vous savez que les Orban et les Le Pen et les Kaczynski et aussi les Salvini, l'AFD, c'était pour eux une aubaine, ce que Trump a fait, ce qu'il a dit. Et je pense qu'encore 4 ans, les valeurs de l'Union européenne auraient disparu. Et ça, pour ça que je pense que Biden, qui fait une politique où il revient sur le multilatéralisme, en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne le commerce, en ce qui concerne le climat, en ce qui concerne aussi le désarmement. Et c'est très important, donc, qu'on ait à nouveau un président avec lequel, avec une administration avec laquelle on peut parler à nouveau d'une façon, comment dirais-je, civilisée, parce que ce n'était plus possible pendant 4 ans. Et là, les États-Unis, nous, on a besoin d'eux, eux, ils ont besoin de nous. Et si les États-Unis convergent en ce qui concerne leur politique avec nos valeurs, il y aura moins de divisions dans l'Union européenne, parce que tous ceux qui étaient du côté de Trump, ils ont quand même réussi à, par exemple, les droits fondamentaux, à mettre gravement en cause les valeurs et aussi, comme j'ai dit, l'état de droit.
Alors, Monsieur le ministre, oui. Mardi à Bruxelles, Joe Biden va rencontrer Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, Charles Michel, qui préside le Conseil européen, pour un sommet États-Unis-Europe. Avant d'évoquer les grands dossiers en cours, nous vous proposons un retour sur l'histoire parfois mouvementée de la relation transatlantique.
Le plan Marshall n'est plus aujourd'hui un projet, c'est maintenant une réalité.
1947. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis aident l'Europe à se relever économiquement pour ne pas basculer dans le giron soviétique.
Nous avons l'intention d'aider les peuples qui cherchent à vivre en paix avec leurs voisins, sans intimider les autres et sans se laisser intimider.
Un soutien sans faille qui se poursuivra durant toute la guerre froide, symbolisé par la phrase de John Kennedy prononcée en 1963 à Berlin.
Ich bin ein Berliner.
Mais qui s'essoufflera progressivement après la chute du mur, même si en 1994, Bill Clinton vient sous la porte de Brandebourg promettre le maintien des GI sur le sol européen. C'est la riposte injustifiée des États-Unis contre l'Irak après le 11 septembre qui creuse le fossé entre l'Europe et l'Oncle Sam. Paris, Rome, Barcelone, Londres, des millions de personnes défilent et certains leaders du vieux continent vont même se désolidariser de Washington.
Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. L'usage de la force ne se justifie pas.
L'Amérique n'a pas de meilleur partenaire que l'Europe.
La déclaration d'amour de Barack Obama fera espérer le retour de la lune de miel.
Maintenant, il est temps de bâtir de nouveaux ponts à l'intérieur du globe, aussi solides que celui qui nous relie des deux côtés de l'Atlantique.
Une promesse faite devant 500 000 Berlinois, alors qu'ils n'étaient encore que candidats à l'élection présidentielle. États-Unis et Europe s'entendent toujours mieux quand les démocrates sont au pouvoir à la Maison-Blanche. Les crises à répétition durant la présidence Trump, qui a encouragé le Brexit, l'ont très souvent rappelé aux dirigeants du vieux continent.
Vous avez reconnu la phrase sur le vieux pays de Dominique de Villepin, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Donald Trump a mis à mal cette relation de confiance transatlantique. Aujourd'hui, un président comme Emmanuel Macron fait de l'autonomie stratégique de l'Union européenne, c'est-à-dire être capable d'être indépendante des États-Unis, voire de l'OTAN, une priorité. Est-ce que les 27 sont divisés ou unis sur ce concept ?
Non, je pense que d'abord, le président Macron, il avait tout à fait raison quand il a dit « on va vers une mort cérébrale de l'OTAN ». Il y a eu des réactions, donc il y aura le sommet de l'OTAN et je pense qu'à ce sommet, on va parler pas seulement de militaires, mais aussi de valeurs. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, il y a un débat en Europe, parce que l'Europe, il y a les pays de l'Est, il y a les pays du Centre, il y a les pays du Nord, il y a les pays du Sud. Mais je pense qu'à la fin du compte, on arrivera à dire que d'un côté, évidemment, c'est l'OTAN, mais d'un autre côté, il faut que les Européens travaillent ensemble. Il n'y aura pas d'armée, à mon avis, européenne. Ça, je ne peux pas m'imaginer cela dans un projet à venir, mais une meilleure coopération et cette force stratégique alors de l'Union européenne, elle est complémentaire à celle de l'OTAN. Il ne faut pas chercher là la division. Donc, et avec ce qu'on fait maintenant sur l'OTAN en 2030, on regarde aussi ce qui se fait au niveau des valeurs. Par exemple, je pense que c'est inacceptable ce que la Turquie a fait en Arménie. Mais si on est membre de cette alliance, il faut savoir que les valeurs jouent aussi un rôle et pas seulement la politique nationale. La coopération entre l'OTAN et l'Union européenne doit être renforcée. C'est pas facile parfois, mais là aussi, je pense, par exemple, aux relations avec la Chine. Je ne vois pas l'OTAN avoir des influences ou des politiques par rapport à la Chine sans se joindre à l'Union européenne.
Alors justement, Jean Hasselborn, sur la Chine, Donald Trump, lui, c'était la guerre commerciale contre la Chine. Joe Biden, il n'a pas un langage guerrier, mais veut bien, il est en Europe parce qu'il cherche à créer un front uni face à la Chine sur le plan économique, sur le plan diplomatique. Est-ce que les Européens ont vraiment les mêmes intérêts que les Américains? Est-ce qu'ils ont intérêt à faire un bras de fer avec Pékin?
Avec les Chinois?
Oui.
D'abord, les États-Unis voient dans la Chine un rival politique, évidemment, un rival commercial, évidemment aussi, et un rival militaire. Alors, quelle est la bonne méthode dans l'Union européenne? La plupart des pays de l'Union européenne ont des relations économiques et politiques assez prononcées depuis des décades avec la Chine. Évidemment, il faut bien savoir que le multilatéralisme chinois, c'est pas le multilatéralisme des Nations unies. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est une chose très importante. Au mois de novembre, décembre, nous avons décidé de nous donner un instrument pour aller contre ceux qui ne respectent pas les valeurs humaines et les droits de l'homme. Et la Chine est un des pays qu'on a visé, surtout ce qui se passe avec les Ouïghours dans le Xinjiang. Et puis d'autres pays comme la Russie, comme le Myanmar et d'autres sont sur cette liste. Et je pense que cela est quand même quelque chose de très important pour l'Union européenne. Le commerce, oui, évidemment, ce sont des postes de travail, mais d'un autre côté, pas à n'importe quel prix, tout accepté. C'est notre rôle en tant qu'Union européenne. J'espère que la plupart des pays dans l'Union européenne savent qu'il faut que nous, sur la planète, nous qui n'avons pas d'armée, mais nous avons quand même le software pour défendre l'essentiel des droits de l'homme. Et c'est la relation avec la Chine, elle sera compliquée à l'avenir. Elle sera peut-être différente de celle des États-Unis, elle sera différente de celle de la Russie. Mais bon, sur les valeurs, elle doit être la même pour tous, pour que les valeurs soient donc défendues par l'Europe aussi en Chine.
Vous vouliez terminer sur un coup de gueule concernant l'espace Schengen qui a été évidemment mis à mal, la libre circulation à l'occasion de la crise Covid.
Oui, vous savez qu'on a deux grands acquis dans l'Union européenne. On a toujours dit ça, c'est l'Europe des citoyens, c'est l'euro hein, et c'est Schengen. Bon, la libre circulation. On nous envie sur toute la planète ce qu'on a fait avec Schengen. J'ai compris en 2015 les actes terroristes qu'il y a eu des restrictions. Je l'ai compris. Vint alors la crise migratoire et j'ai déjà moins compris. Additionnellement, maintenant, c'est le Covid. On est en train de voir une évolution où la libre circulation, c'est l'exception et les restrictions deviennent la règle. Il y a 10 pays actuellement, des pays de Schengen, qui veulent maintenir leurs restrictions. Il y a des pays dans l'Union européenne, surtout dans le nord de l'Union européenne, qui veulent à tout moment, pour des raisons de politique intérieure, décider maintenant des restrictions et que la Commission accepte. Là, c'est l'essentiel. Si on arrive sur une voie pareille, alors Schengen est mort. Et si Schengen est mort, je crois qu'une arme de l'Union européenne, une arme pour l'Europe des citoyens, va disparaître. Et il faut se battre pour que les principes de Schengen soient maintenus parce qu'on va perdre énormément et on va perdre notre crédibilité par rapport aux citoyens européens.
Merci Jean Hasselborn d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur les ondes de RFI ou de France 24.